Bonjour et bienvenue à Europe & Roll sur Radio Fadjet, l'émission qui vous révèle toute l'actualité des jeunes européens. Cette semaine, notre équipe se penche sur le thème des droits de l'homme à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. On commence par un tour d'horizon de l'actualité européenne, toujours aussi riche et diversifiée. Ensuite, petite mise au point sur l'état des droits de l'homme sur le vieux continent. Et on terminera l'émission par les nouvelles toutes fraîches du festival Electricity et plus particulièrement de la Rockhalle au Luxembourg. Nos journalistes s'y sont rendus afin de vous présenter les événements. Mais je laisse tout d'abord le micro à Maxime pour le Flash Info transeuropéen.
Union européenne, le traité de Lisbonne signé. Les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne ont signé jeudi 13 décembre le traité de Lisbonne. Ce traité remplacera le traité de Nice en vigueur. Il avait été rédigé après le rejet du traité constitutionnel européen. Désormais, on entre dans le processus de ratification par les pays membres. La France prévoit de le ratifier dès février par voie parlementaire, une voie choisie par tous les pays sauf Irlande, contrainte par sa constitution à organiser un référendum. Russie, retrait du traité FCE. La Russie a annoncé mercredi 12 décembre la suspension de sa participation au traité sur les forces conventionnelles en Europe, le traité FCE. Ce traité, signé en 1990 à Paris, limite les forces militaires pouvant être présentes de l'Atlantique à l'Oural. Le ministre des Affaires étrangères russe a expliqué que le traité n'était plus en phase, je cite, « avec les réalités contemporaines et les intérêts de la Russie dans le domaine de la sécurité ». Cette décision fait suite notamment à l'expansion militaire de l'OTAN en Europe et le projet de bouclier antimissile en Pologne et en République tchèque. Suisse, le populiste Christopher Blocher évincé. Le leader du parti xénophobe suisse UDC, Christopher Blocher, a perdu mercredi dernier son poste au gouvernement fédéral après un vote au Parlement. Le parti avait gagné les dernières élections fédérales, mais les parlementaires ont décidé tout de même de se passer de Christopher Blocher, habitué à des prises de parole controversées. À sa place, c'est une représentante de l'aile modérée de l'UDC qui a été élue par le Parlement comme conseillère fédérale. Christopher Blocher est alors renvoyé dans l'opposition, reniant les personnalités de son parti présentes au gouvernement. Ukraine, c'est raté pour Yulia Tymoshenko. L'icône de la Révolution Orange, l'ex-premier ministre Yulia Tymoshenko, a raté d'une voix l'investiture pour être nommée premier ministre mardi dernier. Le président Viktor Yushchenko s'était décidé à proposer son nom après la victoire de la coalition entre le bloc de Yulia Tymoshenko et le parti présidentiel aux dernières élections législatives. Avec une faible majorité qui gouverne, l'Ukraine ne semble pas encore sortie de l'incertitude politique.
C'était Maxime pour le Flash Info. Et maintenant, pour nous mettre dans l'ambiance européenne, on commence par quelques notes de musique. On écoute Die Ärzte avec leur chanson Die klügsten Männer der Welt.
Jeder einzelne Einheit, das sind die klügsten Männer der Welt. Sie lächeln ins Reporterheer. Und keine Antwort fällt ihnen schwer. Verwalten sorgsam unser Geld, die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns.
was man uns zumuten kann, weil uns der Überblick auch fehlt, haben wir sie ins Amt gewählt. Manchmal machen sie sich unpopulär, sie zu verstehen fällt uns oft schwer. Politik ist ein kompliziertes Feld, nicht für die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns,
sie entscheiden für uns.
Ja, sie leiden für uns.
Ja, sie leiden für uns.
Unser Dunkel wird durch sie erhellt.
Sveiki.
Mazdare.
Europe and All, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
C'était Die Glücksten Männer der Welt de Die Ärzte. Et maintenant, Madame Vessad, une ancienne députée européenne qui défend aujourd'hui les droits de la femme sur Nancy, répond aux questions de Marion et Mathieu.
Bonjour Marie-Claude Vessad. Vous étiez députée européenne de 1979 à 1994. Et aujourd'hui, vous êtes présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et familles à Nancy. Donc je voudrais tout d'abord vous demander, en tant que témoin des mouvements féminins des années 70 au niveau européen, est-ce que vous pouvez nous retracer l'évolution de ces mouvements féministes?
Dans les années 70 a redémarré un mouvement féministe, parce que les mouvements féministes ont existé avant, mais très tourné vers une conquête de ce qu'on a appelé la maîtrise du corps, c'est-à-dire droit à la contraception, droit à l'avortement. Mais ça a aussi été un grand mouvement vers l'égalité. Égalité dans le travail, mais on parle encore aujourd'hui là de quelqu'un qui vient de se faire licencier parce qu'elle avait osé dire qu'elle n'était pas payée comme l'homme qui faisait le même travail. Égalité dans la famille, et puis le mouvement pour l'égalité en politique. Et l'Europe a accompagné, précédé un certain nombre de choses, en particulier sur l'égalité au travail. C'est vraiment un énorme travail européen de grandes directives qui a bouleversé le code du travail dans l'ensemble des pays.
Donc, concernant la situation actuelle, vous dites il y a encore beaucoup de... Enfin, par exemple, les violences faites aux femmes. Après, il y a aussi encore le problème dans le monde du travail que les femmes n'ont pas le même salaire. Qu'est-ce que vous pourriez proposer au niveau européen pour encore améliorer les choses au niveau des droits des femmes?
Au niveau européen, ce qui avait été mis en place à partir des années 82, qui sont des programmes d'action. Du point de vue législatif, tout l'acquis communautaire en matière d'égalité au travail, d'égalité de salaire, d'égalité de traitement dans les régimes de sécurité sociale, enfin on a comme ça une bonne douzaine de directives, et beaucoup d'arrêts de la Cour de justice des communautés, qui a conforté fortement le droit. Je crois que les mouvements à faire maintenant, c'est vraiment des mouvements de mise en œuvre. L'égalité de salaire en France, on l'a proclamée en 72, on a refait une loi il n'y a pas longtemps, et ben c'est pas fait. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit une prise de conscience globale de la société, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une lutte collective, hommes et femmes, sur ce sujet. Les trous juridiques, il n'y en a pas tellement. C'est pas parce qu'on empile des lois que ça va mieux.
En tant que femme qui a été députée au Parlement européen, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des problèmes de parité qui sont également, par exemple, au niveau européen?
Les premiers textes réclamant la parité ont été un appel d'Athènes d'associations féminines et de femmes politiques. J'ai été élu au Parlement européen parce que le parti auquel j'appartenais, ou que j'appartiens toujours d'ailleurs, avait fait des quotas. Et plein de gens disaient, mais les quotas, c'est humiliant, tu te sens pas humilié d'être pris simplement parce que t'es une femme. Et je répondais, je suis pas humilié, je suis élu. Et ça change tout. Après, faut faire ses preuves. Mais les femmes n'avaient pas l'occasion de montrer leurs compétences. Donc cette bataille a été une bataille vraiment très importante. Alors une anecdote, à la conférence, 4e conférence mondiale des femmes à Pékin, était venue la femme première ministre de Norvège, Gro Hodland, qui avait fait un gros travail et qui a été premier ministre pendant 11 ans, 12 ans, je ne sais plus. Elle nous a raconté qu'en Norvège, dans une école, il y avait un petit garçon qui avait demandé à sa maîtresse, est-ce qu'en Norvège, il peut y avoir un homme comme premier ministre?
Et donc, comme bilan aujourd'hui?
Dans l'ensemble des pays européens, si on se retourne et qu'on regarde 30 ans en arrière, ça a été un bond extraordinaire vers l'égalité. Alors, il reste des chantiers, et peut-être un des chantiers importants, c'est qu'il n'y ait jamais de retour en arrière. C'est-à-dire que ça ne soit pas remis en cause. Mais le progrès, il existe. Enfin, vous êtes jeune, vous arrivez, vous n'avez pas l'impression d'être brimé comme femme, ni à la faculté, ni nulle part. Enfin, il y a encore des améliorations, mais je crois qu'il faut voir déjà le chemin parcouru pour mesurer après les lacunes ici ou là. Mais moi, je suis pas du tout du genre mur des lamentations.
Merci, Madame Vessad.
Merci Marion et Mathieu du groupe Human Woman pour cette interview. On continue avec un morceau de musique, Lidekai Paliepus de Frickenbock.
Europe'n'Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
Mathieu va maintenant nous présenter les droits de l'homme en Europe aujourd'hui.
Le 10 décembre est la journée internationale des droits de l'homme. Cette journée est l'occasion de se pencher sur la situation des droits de l'homme dans le monde, d'évaluer les réussites et les échecs, et de réfléchir à d'éventuelles réponses aux défis actuels. Cette journée a été fixée en 1950, et commémore la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Pour nous, les droits de l'homme sont aujourd'hui quelque chose de naturel. Ici, en Europe, nous n'imaginons pas la vie sans le respect de nos droits. L'égalité et la liberté constituent pour nous les bases pour une vie en autonomie, pour une vie démocratique. Je peux faire une virée de l'autre côté du Rhin quand je veux, je peux être chrétien, musulman, gay, sadomasochiste, je vote, et comble du luxe, j'ai même le droit de critiquer le gouvernement. Mais il ne faut pas oublier que dans d'autres pays du monde, ce n'est pas le cas. On pense immédiatement à la Chine ou à de sombres dictatures africaines Mais n'oubliez pas que même chez nous, en Europe, le processus a été long pour acquérir le respect de ces droits, et qu'il n'est pas totalement terminé. Historiquement, on observe surtout que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Dans les constitutions des pays européens, il y a eu de nombreux changements et amendements pour la parité homme-femme. Elles rencontrent aujourd'hui encore de nombreux obstacles, notamment dans le monde du travail où leur salaire est toujours plus bas que celui des hommes. Le revenu d'une femme est en moyenne 20% inférieur à celui d'un homme. Et on trouve également des disparités à compétences égales. Est-ce que les droits de l'homme et de la femme sont vraiment respectés chez nous à 100% comme il y paraît? Malgré quelques obstacles qui persistent et montrent qu'une évolution est encore nécessaire, nous pouvons être relativement optimistes en Europe. Le respect des libertés constitue une condition préalable indispensable pour tout pays qui souhaite intégrer l'Union européenne. On en entend beaucoup parler pour la Pologne, la Croatie ou encore la Turquie. De nombreux pays sont entrés dans l'Union européenne et elle représente aujourd'hui un véritable terrain d'égalité, de paix et de liberté, du moins sur le plan juridique. C'est ce que l'on considère comme la plus grande réussite de l'Union européenne. Mais si l'on fait un tour d'horizon du monde, on voit encore beaucoup d'injustices. Ce sont notamment les femmes et les enfants qui souffrent du mépris de leurs droits. Un problème majeur, par exemple, la pauvreté. Elle est la cause, mais aussi la conséquence du non-respect des droits humains, car dans ces conditions, les gens n'ont pas accès à l'éducation ni au travail. On pourrait citer d'autres problèmes, comme les victimes de guerre ou les personnes persécutées, hommes et femmes, qui n'ont pas accès à leurs droits les plus fondamentaux. Face à tous ces problèmes, de nombreuses organisations se sentent dans l'obligation d'agir et de se battre pour le respect de ces droits dans le monde entier. Des organisations non gouvernementales comme Amnesty International font appel au gouvernement pour imposer la justice, la liberté et l'égalité. La Journée internationale des droits humains en France ou en Autriche par exemple sert à des actions concrètes comme la signature de pétitions pour rendre visible la violation des droits humains dans le monde et pour sensibiliser les Européens. Beaucoup de ces actions sont soutenues par l'Union européenne qui joue beaucoup de ce qu'elle appelle son « soft power ». À l'inverse des États-Unis qui entendent combattre le terrorisme par la guerre, l'Union européenne exerce de plus en plus de pression, diplomatique, financière, pour répandre les idéaux européens.
Merci Mathieu. Et on continue avec un petit air de musique. Voici Let Me Back Up de Don Remini, chanson qui passait hier soir à l'autre canal. Don Remini est français peut-être, mais branché Europe. Entre la pop anglaise et l'électro italien, il a créé son style. Let me back up. Yo, 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 let me back up.
Let me back up.
Gauthier. Mazarek. Europe Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
Vous venez d'entendre Let Me Back Up de Don Remaney. Tout de suite, on écoute une interview d'Isabelle Chaigne, directrice de l'autre canal, au micro de Patrick.
La musique actuelle, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les musiques actuelles, c'est un mot qui est vraiment plus employé en France, qui regroupe l'ensemble des esthétiques musicales qui ne sont pas les musiques classiques. Ça regroupe l'ensemble des esthétiques, donc ça va de la chanson, du jazz, des musiques traditionnelles, à ce qu'on appelle en plus aussi en France les musiques amplifiées, à savoir le rock, le hip-hop et les musiques électroniques. L'acceptation de ce mot-là au niveau international, en tout cas européen, on parlait plutôt peut-être de musique populaire. C'est peut-être le mot le plus générique qui regroupe l'ensemble de ces musiques. C'est pour ça que maintenant en France, après avoir utilisé plusieurs mots différents, on parle maintenant de musique actuelle et populaire. Comme ça, il y a une compréhension meilleure de la part des interlocuteurs des autres pays.
Et ça bouge à Nancy ?
À Nancy, ça bouge pas mal. À Nancy, ça bouge pas mal. Et en région Lorraine, ça bouge pas mal. Tout simplement parce que... Donc, il y a eu la création d'une nouvelle structure, donc l'autre canal, qui est un espace dans lequel il y a l'ensemble des outils nécessaires à la fois à la création, à la répétition, à la diffusion, à l'information, avec un rôle régional de structuration de ce secteur des musiques actuelles et populaires. Et par la même occasion, deux salles de spectacle dans lesquelles il y a à peu près 120 spectacles à l'année. Et une volonté de collaborer, de travailler sur l'espace transfrontalier pour qu'il y ait une meilleure maîtrise à la fois de la connaissance de l'ensemble des productions musicales qui sont faites dans chacun des pays. Souvent, on s'aperçoit que même dans des pays extrêmement proches, on ne connaît pas vraiment les groupes parce qu'il y a des modes de production et des modes de fonctionnement qui sont complètement différents par pays. Et donc, il faut commencer par savoir bien comment on travaille chacun pour arriver à mieux collaborer.
Et en quoi l'effacement des frontières et les nouvelles technologies y ont contribué ?
Les musiques sont plus connues. C'est-à-dire, on peut forcément découvrir, ne serait-ce que par hasard, des artistes de d'autres pays beaucoup plus facilement qu'avant avec les nouvelles technologies. Après, les nouvelles technologies ou l'écoute de musique comme ça par ordinateur ou avant par CD ne remplacera jamais le spectacle vivant et l'importance de la rencontre, de l'émotion et de ce qui peut se passer collectivement dans une salle de spectacle.
Est-ce que l'autre canal échappe à la règle qu'on retrouve surtout des musiciens américains et français sur des scènes françaises ?
Il faut qu'il y ait une réelle volonté de la structure. Tout simplement parce que c'est vrai que les productions américaines, elles arrivent relativement facilement en France, il y a des tourneurs qui s'en occupent. Peut-être de façon plus systématique qu'une recherche dans les pays européens, et je pense notamment à l'Europe de l'Est. À partir du moment où on prend comme parti de défendre un projet qui soit très attentif aux productions musicales de l'Europe, en commençant par justement l'avantage qu'on a d'être transfrontalier avec trois autres pays et cinq régions, ça veut dire qu'on doit avoir une méthode de recherche de ces artistes beaucoup plus importantes.
Merci pour l'interview.
Un petit air de musique avant de retrouver nos envoyés spéciaux à Luxembourg. Voici Chris De Luca avec sa chanson Celebrate.
Sophie. Bonsoir. Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
Et maintenant, retrouvons nos envoyés spéciaux. Anne-Caroline et Patrick, bonsoir.
Bonsoir, guten Abend.
Et Mayenne, oui, effectivement, Europe & Roll est en déplacement dans la grande région. Aujourd'hui, on est au Festival Electricity au Luxembourg. Avant les 15 à Nancy et les 22 à Saarbrück, les fans de la musique techno se réunissent au Rock Hall.
Les fêtards sont sur la piste jusqu'à 8h du matin. Allez,
en silence. Allez,
sois ouais. Donc nous voici à Electricity au Luxembourg avec le directeur du Rock Hall. Et nous allons lui poser quelques questions. Donc tout d'abord, le concept qui est né apparemment à Saarbrück. Vous pouvez dire qu'elle commence sur comment s'est née toute cette idée avec Electricity.
Mais c'est en fait effectivement un concept qui existe depuis 5-6 ans à Saarbrücken, qui a eu des hauts et des bas, récemment que des hauts en fait. Et on a fait connaissance, moi, avec les responsables d'Electricity de Saarbrücken, ensemble avec des gens de Nancy. Et on s'est, comment dire, on s'était mis en tête de vouloir organiser un grand événement transfrontalier entre les trois endroits pour... en fait, faire passer le public d'un côté à l'autre, parce que tout le monde, finalement, on s'est rendu compte qu'on a les mêmes soucis. Les gens de Saarbrücken n'arrivent pas à faire bouger les Français, ni les Luxembourgeois n'arrivent pas à faire bouger les Français et les Allemands. Et la même chose pour les gars de Nancy qui n'arrivent pas à faire bouger les Allemands ou les Luxembourgeois. Donc on s'est dit, allez, on va s'allier, on va faire un projet commun et on va essayer de faire bouger les gens justement avec cela. Et je pense que déjà ce soir, ça nous donne un peu raison. On a énormément de gens de Saarbrücken, Nancy, je sais pas, mais pas mal de Français quand même aussi, de Nancy, ou de la région de Lorraine de tout court. Donc je pense que au moins le pari de la première édition, ça marche.
D'accord. Et vous avez donc profité un petit peu de cette occasion de la capitale culturelle au Luxembourg cette année pour initier le concept ici. Donc c'est cette occasion-là qui vous a donné l'idée.
En fait, non. Le projet, il est né de manière tout à fait indépendante. Il est vrai quand même qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'un colloque de 2007, oui. Mais on s'est rencontrés en fait comme des gens du terrain. Et on avait ce problème-là sur le terrain. Et ensuite seulement, on s'est dit, mais en fait, ce dont on parle, c'est l'esprit 2007, c'est l'esprit de la grande région. Alors essayons d'intégrer ça là-dedans. Et effectivement, aujourd'hui, avec notre soirée, on est after show party des festivités de clôture de 2007.
Et ça a quand même pas mal de succès. Est-ce que vous songez à une deuxième édition?
C'est ça le but de l'histoire, oui.
C'est fini pour Europe & Roll cette semaine. On se retrouve dès dimanche prochain sur Fadjet pour une nouvelle émission. En attendant, retrouvez nos articles et nos émissions en ligne sur fadjet.net et europeandroll.eu. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des CD et DVD d'Indochine en participant à notre tirage au sort sur notre site internet. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Fadjet.